Alexandre Dumas, une aventure d'amour. Un matin de l'automne de 1856, mon domestique, malgré l'ordre express que je lui avais donné de ne pas me déranger, ouvrit ma porte et, en réponse à la grimace fort significative qu'il distingua sur mon visage, me dit « Monsieur, elle est fort jolie. » « Qui cela, imbécile ? » La personne pour laquelle je me permets de déranger monsieur. Et que m'importe qu'elle soit jolie, tu sais bien que quand je travaille, je n'y suis pour personne. Et puis elle vient, continua-t-il, de la part d'un ami de monsieur. Le nom de cet ami qui habite Vienne, le nom de cet ami. Oh, monsieur, un drôle de nom, un nom comme rubis ou diamant. Saphir, oui, monsieur, saphir, c'est cela. Ah, c'est autre chose alors. Bon, fais monter dans l'atelier et descends-moi une robe de chambre. Mon domestique sortit. J'entendis un pas léger qui passait devant la porte de mon cabinet, puis monsieur Théodore descendit ma robe de chambre sur le bras. Quand je donne à un domestique ce signe de considération de l'appeler monsieur, c'est qu'il est remarquable par son idiotisme ou sa friponnerie. J'ai eu près de moi trois des plus beaux spécimens de ce genre que l'on puisse rencontrer, M. Théodore, M. Joseph et M. Victor. M. Théodore n'était qu'un idiot, mais il l'était bien. Je constate ceci en passant, afin que le maître, chez lequel il est en ce moment, si toutefois il a un maître, ne le confonde pas avec les deux autres. Au reste, l'idiotisme a un grand avantage sur la friponnerie. On voit toujours assez tôt que l'on a un domestique idiot. On s'aperçoit souvent trop tard que l'on a un domestique fripon. Théodore avait ses protégés. Ma table est toujours d'une assez large circonférence pour que deux ou trois amis viennent s'y asseoir sans y être attendus. Ils ne trouvent pas toujours bon dîner, mais ils trouvent toujours bon visage. Eh bien, les jours où le dîner était bon selon le goût de M. Théodore prévenait ceux de mes amis ou de mes connaissances qu'il préférait aux autres. Seulement, selon le degré de susceptibilité des gens, il disait aux uns « Monsieur Dumas disait ce matin, il y a longtemps que je n'ai vu ce cher untel, il devrait bien venir me demander à dîner aujourd'hui. » Et l'ami, certain de prévenir un désir, venait me demander à dîner. Aux autres, moins susceptibles, Théodore se contentait de dire en les poussant du coude « Il y a un bon dîner aujourd'hui, venez donc !» Et sur cette invitation, l'ami, qui ne fut pas probablement venu sans cela, venait dîner. Je cite un détail de la grande personnalité de M. Théodore. S'il me fallait compléter le portrait, j'y emploierais tout un chapitre. Revenons donc à la visite annoncée par M. Théodore. Revêtu de ma robe de chambre, je me hasardai à monter jusqu'à l'atelier. En effet, j'y trouvai une charmante jeune femme, grande de taille et éclatante de blancheur, avec des yeux bleus, des cheveux châtains, des dents magnifiques. Elle avait une robe de taffetas gris-perle montant jusqu'au cou, un châle de façon et d'étoffes arabes, et un de ces charmants chapeaux, malheureusement un peu réprouvés par le goût à Paris, et qui vont si bien même aux femmes laides ou qui ne sont plus jeunes, que l'Allemagne les a surnommés « un dernier essai ». L'inconnu me tendit une lettre sur l'adresse de laquelle je reconnus l'indéchiffrable griffonnage du pauvre saphir. Je mis la lettre dans ma poche. « Eh bien !» me dit la visiteuse avec un accent étranger fortement prononcé. « Vous ne lisez pas ?»« Inutile, madame, lui répondis-je. J'ai reconnu l'écriture et votre bouche est assez gracieuse pour que je désire savoir d'elle-même ce qui me procure l'honneur de votre visite. »« Mais je désire vous voir, voilà tout. »« Bon, vous n'avez pas fait le voyage de Vienne exprès pour cela. »« Qui vous le dit ?» Ma modestie. Pardon, mais vous ne passez pas pour modeste, cependant. J'ai mes jours de vanité, c'est vrai. Lesquels? Ceux où les autres me jugent et où moi je me compare à ceux qui vous jugent. Vous avez de l'esprit, madame. Donnez-vous donc la peine de vous asseoir. Si je n'avais été que jolie, vous ne m'eussiez donc pas fait cette invitation? Non, je vous en eusse fait une autre. Dieu, que les Français sont fades! Ce n'est pas tout à fait leur faute. Eh bien, moi, en quittant Vienne pour venir en France, j'ai fait un vœu. Lequel? Celui de m'asseoir, tout simplement. Je me levais et je saluais. Me ferez-vous la grâce de me dire à qui j'ai l'honneur de parler? Je suis artiste dramatique, hongroise de nation. Je me nomme Madame Lila Bulyovski. J'ai un mari que j'aime et un enfant que j'adore. Si vous y avez vu la lettre de notre ami commun Saphir, il vous disait tout cela. Croyez-vous que vous n'avez pas gagné à me le dire vous-même? Je n'en sais rien. La conversation avec vous prend de si singulières tournures. Libre à vous de la remettre sur la route qu'il vous conviendra. Bon, vous êtes sans cesse à lui donner des coups de coude pour la pousser à droite ou à gauche. À gauche surtout. C'est justement le côté où je ne veux pas aller. Alors, marchons droit et devant nous. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible. Vous allez voir que si. Redites ce que vous venez de me dire. Vous êtes artiste dramatique. Que jouez-vous? Tout. Le drame, la comédie, la tragédie. J'ai par exemple joué à peu près toutes vos pièces, depuis Catherine Howard jusqu'à Mademoiselle de Belle-Île. Et sur quel théâtre? Sur celui de Pest. En Hongrie, alors? Je vous ai dit que j'étais hongroise. Je poussai un soupir. Vous soupirez? Me demanda Madame Bulyovski. Oui, un des plus charmants souvenirs de ma vie se rattache à une de vos compatriotes. Bon, voilà que vous poussez encore la conversation à gauche. La conversation, pas vous. Imaginez donc, mais non, continuez. Ah, pas du tout, vous allez raconter une histoire, racontez-la. Pourquoi faire? Pour m'amuser, donc. Tout le monde peut vous lire, il n'est pas donné à tout le monde de vous entendre. Vous voulez me prendre par l'amour propre? Moi, je ne veux pas vous prendre du tout. Alors, ne nous occupons pas de moi. Vous êtes artiste dramatique, vous êtes hongroise de nation, vous vous nommez Madame Lila Bulyovski, vous avez un mari que vous aimez, une enfant que vous adorez, vous venez à Paris pour me voir. D'abord, très bien, et après moi? On voit tout ce qu'on voit à Paris. Et qui vous fera voir tout ce que l'on voit à Paris? Vous, si vous voulez. Vous savez que l'on ne vous aura pas vu trois fois ensemble, que l'on dira une chose. Laquelle? Que vous êtes ma maîtresse? Qu'est-ce que cela fait? Ah, à la bonne heure! Sans doute à la bonne heure! Sans doute à la bonne heure! Ceux qui me connaissent sauront bien le contraire. Et quant à ceux qui ne me connaissent pas, que m'importe ce qu'ils peuvent dire? Oh, vous êtes philosophe. Non, je suis logique. J'ai 25 ans, on m'a dit souvent que j'étais jolie, que j'ai pensé qu'autant que valait le croire, pendant que c'était vrai, que quand cela ne le serait plus. Vous n'imaginez pas que j'ai quitté Pest pour venir à Paris toute seule, sans même une femme de chambre, avec la conviction qu'on ne toucherait pas de bande sur moi. Bien, cela ne m'a point arrêté. Qu'on morde, mon art avant tout. Alors, votre voyage à Paris est une affaire d'art. Pas autre chose. J'ai voulu voir vos grands poètes pour savoir s'ils ressemblaient aux nôtres, et vos grands artistes dramatiques pour savoir si j'avais quelque chose à leur prendre. J'ai demandé à Saphir une lettre pour vous, il me l'a donnée, et me voilà. Avez-vous quelques heures à me consacrer? Oh, toutes les heures que vous voudrez. Eh bien, j'ai un mois à rester à Paris, 6 000 francs à y dépenser, tant pour mes achats que pour mon plaisir, et 1 000 francs pour me retourner à Pest. Supposez que Saphir vous ait adressé à un étudiant de Leipzig ou de Heidelberg, au lieu d'une artiste dramatique du théâtre de Pest, et arrangez-vous en conséquence. Alors, vous dînerez avec moi, chaque fois que vous serez libre. Ces jours-là, nous irons au spectacle. Très bien. Tenez-vous à ce qu'il y ait une troisième personne avec nous? Aucunement. Et vous vous moquerez de ce que l'on pourra dire. Mais si vous aviez vu la lettre de Saphir, vous eussiez vu un paragraphe tout entier consacré à ce chapitre. Je lirai la lettre de Saphir. Quand cela? Quand vous serez parti. Alors donnez-moi 2 ou 3 lettres d'introduction, et je pars. Une pour Lamartine, une pour Alphonse Carr, une pour votre fils. À propos, j'ai joué sa dame au Camélia, à votre fils. Je n'ai pas besoin de vous donner de lettres pour lui, nous dînerons demain ensemble, si vous voulez. Je veux bien. On m'a dit que Madame Doche était charmante dans la dame au Camélia. Madame Doche dînera avec nous et se chargera de vous conduire quelque part. Où cela? Où elle voudra. Il faut donner quelque chose au hasard dans ce monde. Vous me raconterez un jour votre histoire avec ma compatriote. Si cela vous fait bien plaisir. Oui. Quand? Quand je vous le demanderai. À merveille. Maintenant mes lettres. Vous comprenez, voilà 6 ans que j'économise pour venir à Paris. Je n'y reviendrai probablement jamais, je n'ai pas de temps à perdre. Je descendis à mon bureau et j'écrivis les 2 ou 3 lettres que m'avait demandé Madame Bulyovski. Je remontais et les lui donnais. J'allais lui baiser la main quand elle m'embrassa franchement sur les 2 joues. Ne vous ai-je pas annoncé que vous aviez affaire à un étudiant de Leipzig ou de Heidelberg? Oui. Eh bien donc, à l'allemande, ou la poignée de main, ou la collade. Va pour la collade. Il y a un proverbe en France qui dit que d'une mauvaise paye, il faut tirer ce que l'on peut. Ainsi donc, à demain, à dîner. À demain, à dîner, où? Ici. À quelle heure? À 6 heures. Très bien. Si je suis en retard de quelques minutes, il ne faut pas m'en vouloir. De même que si vous êtes en avance de quelques minutes, il ne faut pas vous en savoir gré. Non, j'ai du plaisir à être avec vous, et si je suis en avance, je serai en avance pour ma propre satisfaction. À demain. Et elle descendit légèrement l'escalier, se retournant au palier pour me jeter un dernier signe d'amitié. À la porte de mon cabinet de travail, je trouvais M. Théodore, les yeux écarquillés et la bouche souriante. « Eh bien, monsieur, vois que je ne suis pas encore si bête qu'il le dit. »« Non, repris-je, mais vous êtes encore plus sot que je le croyais. » Et je rentrai dans mon cabinet, le laissant tout ébahi. Pendant un mois, je dînais 2 ou 3 fois par semaine avec Madame Bulyovski et 2 ou 3 fois par semaine, je la conduisis au spectacle. Je dois dire que nos étoiles l'éblouirent peu à part Rachel. Madame Ristori n'était point à Paris. Un matin, elle arriva chez moi. « Je pars demain, » dit-elle. « Pourquoi partez-vous demain ?» Parce qu'il me reste juste assez d'argent pour retourner à Pest. En voulez-vous? Non, 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 j'ai vu à Paris tout ce que je voulais voir. Combien vous reste-t-il? 1 000 francs. C'est plus qu'il ne vous en faut, de moitié. Non, car je ne vais pas directement à Vienne. Voyons votre itinéraire. Voici. Je vais à Bruxelles, à Spa, à Cologne. Je remonte le Rhin jusqu'à Mayence et de là à Mannheim. Mais que diable allez-vous faire à Mannheim? Werther s'est brûlé la cervelle et Charlotte est trépassée. Je vais voir Madame Schroeder. Ah, la tragédienne. Oui, la connaissez-vous? Oh, je l'ai vu jouer une fois à Francfort, mais j'ai beaucoup connu ses deux fils et sa fille. Ses deux fils? Oui. Je n'en connais qu'un, De Vrient. Ah, le comédien, mais moi je connais l'autre, le prêtre, qui demeure à Cologne, derrière l'église Saint-Gédéon. Si vous voulez, je vous donnerai une lettre pour lui. Merci, c'est à sa mère que j'ai affaire. Que lui voulez-vous? Je suis hongroise, je vous l'ai dit. Je joue la comédie, le drame et la tragédie en hongrois. Eh bien, je suis las de ne parler qu'à 6 ou 7 millions de spectateurs. Je voudrais jouer la comédie en allemand pour parler à 30 ou 40 millions d'hommes. Pour cela, je veux voir Madame Schroeder répéter en allemand une scène devant elle et si elle me donne l'espoir qu'avec un an de travail, je puis perdre ce que j'ai d'accent, je vends quelques diamants, j'habite les villes qu'elle habitera, je la suis comme madame de compagnie, comme femme de chambre si elle veut, et au bout d'un an, je me lance sur les théâtres de l'Allemagne. Eh bien, qu'y a-t-il? Ah, il y a que je vous admire. Non, vous ne m'admirez pas. Vous trouvez cela tout simple. Je suis horriblement ambitieuse. J'ai eu de grands succès, j'en veux de plus grands encore. Avec cette volonté-là, vous les aurez. Maintenant, nous dînons ensemble, n'est-ce pas? Nous allons au spectacle une dernière fois. Vous me donnez des lettres pour Bruxelles, où je m'arrête un jour ou deux, et d'où j'expédie tout mon bagage à Vienne. Nous nous disons adieu et je pars. Pourquoi nous disons-nous adieu? Mais je vous le répète, parce que je pars. Il m'est venu une idée.
Laquelle?
J'ai affaire à Bruxelles. Or, au lieu de vous donner des lettres, je pars avec vous. Seul, vous ennuieriez à mourir, soyez franche. Elle se mit à rire. « J'étais sûre que vous alliez me proposer cela, » me dit-elle. « Et vous étiez d'avance décidée à l'accepter ?»«
Ma foi, oui. En vérité, je vous aime beaucoup. »«
Merci.
Et qui sait si nous nous reverrons jamais ?»«
Ainsi, c'est convenu, nous partons demain. »« Demain, oui, mais par quel train ?»
Par celui de 8 heures du matin, je me sauve.
Déjà,
oh, j'ai énormément à faire. Vous comprenez, un dernier jour, à propos,
quoi?
Nous ne partons pas ensemble, nous rencontrons là-bas par hasard.
Pourquoi cela?
Parce que je pars avec des gens de ma connaissance.
Des Viennois?
Oui.
Votre conscience ne vous suffit donc plus?
Ce sont des imbéciles.
Faisons mieux que cela.
Oh, le mieux est l'ennemi du bien.
Au lieu de partir demain matin, partez demain au soir.
Ben, ils ne partiront que demain au soir. Ils sont décidés à partir avec moi.
Et jusqu'où vont-ils comme cela?
Ah, jusqu'à Bruxelles seulement.
Attendez. Voici ce que nous faisons. Nous partons demain au soir.
Vous insistez?
J'insiste. Vous ferez bien cela pour moi, que diable, vous n'êtes pas en avance.
Vous me le reprochez?
Non, je le constate.
Eh bien, alors dites, nous verrons après.
Nous partons donc par le train du soir. Nous ne nous rencontrons même pas. Vous montez dans un wagon quelconque avec vos Viennois. Je vous vois monter et vous désigne à l'un des employés. Moi, je monte dans un wagon tout seul. À la deuxième ou troisième station, vous vous plaignez d'étouffer. L'employé du chemin de fer vous propose de venir dans un wagon moins habité. Vous acceptez, vous venez dans le mien, où vous prenez tout l'air qu'il vous faut, et où vous dormez tranquille toute la nuit.
Et où je dors tranquille? Parole d'honneur. En effet, cela peut s'arranger ainsi. Donc, cela s'arrange.
Parfaitement.
Alors, à ce soir.
Non, à demain.
Nous dînons demain ensemble.
Impossible, partant le soir, je suis obligé de dîner avec mes Viennois.
Ainsi, nous ne nous verrons qu'au chemin de fer.
Je tâcherai de venir vous serrer la main dans la journée.
Venez. Je commençais à m'habituer à découvrir un charmant camarade sous ce taffetas et sous cette soie où j'avais cru trouver une jolie femme. Nous nous donnâmes une poignée de main et Lila partit. Le lendemain, je reçus ce petit mot. Impossible d'aller vous voir, je bataille avec mes tailleuses et mes marchandes de mode, j'emballe de quoi monter un magasin à peste. Je ne sais pas comment j'aurais fait si j'avais dû partir ce matin, à ce soir. Bonne nuit, Lilia. Le mot « bonne nuit », fortement souligné, me paraissait passablement ironique. « Bonne nuit », répétais-je. « Cependant, c'est pas ce qui peut arriver. » Le soir, j'étais au chemin de fer une demi-heure d'avance. Je ne sais si jamais je trouverai une occasion de remercier les chemins de fer en masse de toutes les attentions dont je suis l'objet de la part des employés dès qu'on me voit apparaître dans un de ces couloirs, sur la porte desquels sont écrits en grosses lettres ces mots sacramentels « Le public n'entre pas ici ». J'allais trouver le chef de gare. Je lui expliquais la situation. Il se mit à rire. « Eh bien non, lui dis-je. « Vraiment ? Parole d'honneur ?
Oh, oui, mais pendant la route,
je n'y crois pas. N'importe, bonne chance. Prenez garde, on ne souhaite pas bonne chance à un chasseur. » Je montai dans mon wagon où le chef de gare m'enferma hermétiquement en suspendant à la poignée de ma portière une pancarte sur laquelle était écrit en grosses lettres ces mots « Caisse louée ». Lorsque j'entendis le bruit que faisaient les voyageurs en accourant prendre leur place, je passai la tête par la portière. J'appelai le chef de train et lui montrai Madame Bulyovski montant dans un wagon avec ses trois Viennois et ses quatre Viennoises, lui expliquant ce que j'attendais de sa complaisance.
Laquelle est-ce ? Me demanda-t-il.
Ben, la plus jolie.
Alors, celle qui a un chapeau à la mousquetaire ?
Justement. « Oh, vous n'êtes pas maladroit, vous. C'est votre opinion, dame. Eh bien, ce n'est pas la mienne. » Le chef de train me regarda d'un air narquois et s'éloigna en secouant la tête. « Secouez la tête tant que vous voudrez, c'est comme cela, lui dis-je, tout dépité de ne pouvoir faire croire à mon innocence. » Le train partit. À la station de Pontoise, il faisait nuit close. Ma portière s'ouvrit et j'entendis la voix du chef de gare qui disait « Montez, madame, c'est ici. » J'étendis la main et j'aidai ma belle compagne de voyage à enjamber les 2 degrés. « Ah, vous voilà enfin, m'écriai-je.
Le temps vous a semblé long ?
Oh, je crois bien, j'étais seul.
Eh bien, moi, tout au contraire, il m'a semblé long parce que j'étais avec quelqu'un.
Heureusement que je ferma les yeux. » Et que je pensais à vous.
Vous pensiez à moi.
Pourquoi pas ?
Oh, ce n'est pas moi qui vous querellerai à ce sujet seulement. De quelle façon pensiez-vous à moi ?
De la façon la plus tendre possible.
Bah,
oui, je vous jure que je vous suis profondément reconnaissante de la façon dont vous vous conduisez avec moi.
Ah, vraiment ?
Parole d'honneur.
C'est toujours cela. Seulement arrivé à Vienne, vous vous moquerez de moi.
Non, attendu que non seulement je suis une honnête femme, mais encore parce que je crois être une femme d'esprit.
Et moi, suis-je un homme d'esprit ?
Avec tout le monde et pour tout le monde, oui.
Oui, mais pour vous ?
Oh, pour moi ? Vous êtes mieux que cela, vous êtes un homme de cœur. « Maintenant, embrassez-moi et souhaitez-moi une bonne nuit. Je me sens très fatigué. »
Je l'embrassai à l'allemande ou à l'anglaise, comme on voudra. Elle me rendit un baiser qui, pour une Française, eût été fort significatif, puis elle s'arrangea dans son coin. Je la regardai faire en me disant que, bien certainement, lorsqu'un homme manquait de respect à une femme, c'est que la femme le voulait bien. Elle changea deux ou trois fois de position, se plaignit doucement, ouvrit les yeux, me regarda et dit « Décidément, je crois que je serais mieux la tête appuyée sur votre épaule. Peut-être serez-vous mieux, lui répondis-je en riant, mais à coup sûr, moi, je serai plus mal. De sorte que vous me refusez. Non, pèse une égarde. Nous étions en face de l'un de l'autre. Je changeai de place et m'assis près d'elle. Elle ôta son chapeau, noua un mouchoir de soie sous son cou, s'accommoda sur mon épaule et au bout d'un instant, « Je suis très bien comme cela, me dit-elle. Et vous ? Moi, le bon opinion. Alors, demain matin, peut-être vous en serez-vous fait une. La nuit porte conseil. » Puis elle fit encore deux ou trois petits mouvements, comme l'oiseau qui arrange son cou sous son aile, chercha ma main de sa main, la serra doucement en signe de bonsoir, remua les lèvres pour m'adresser une parole inintelligible et s'endormit. Je n'ai jamais éprouvé une plus singulière sensation que celle qui s'empara de moi lorsque les cheveux de cette charmante créature s'appuyèrent sur mes joues, lorsque son souffle passa sur mon visage. Sa physionomie avait pris une expression enfantine, virginale, tranquille, que je n'avais jamais vue à aucune femme dormant sur ma poitrine. Je restai longtemps à la regarder, puis peu à peu mes yeux se fermèrent, se rouvrirent, se refermèrent. J'appuyai mes lèvres sur son front en murmurant à mon tour « Bonne nuit » et je m'endormis doucement et délicieusement. À Valenciennes, le chef de train en personne ouvrit notre voiture en criant « Valenciennes, 20 minutes d'arrêt !» Nous ouvrîmes les yeux en même temps et nous nous mîmes à rire. « En vérité, je crois que je n'ai jamais si bien dormi, » me dit Lila. « Ma foi, lui dis-je, ce que je vais vous répondre n'est peut-être pas très galant, mais ni moi non plus. » « Vous êtes un homme charmant, me dit-elle, et vous avez un grand mérite. Lequel ? Celui d'être mal connu, ce qui ménage des surprises à ceux qui font votre connaissance. Vous promettez de me réhabiliter près de sa fille, je vous le jure, et de m'envoyer des pratiques. Oh, quant à cela, non, je vous le promets. Cependant, si je me conduisais pas avec vos recommandés comme je me conduis avec vous, oh, j'en serais horriblement peiné. Et si je me conduisais d'une façon tout opposée, j'en serais horriblement furieuse. Mais enfin, que préféreriez-vous? Inutile de vous le dire, puisque je ne vous enverrai personne. « Descendez-vous ou restez-vous ?»« Oh, je reste, je suis trop bien. Seulement laissez-moi changer de place et me mettre sur votre épaule droite. »« Ah, vous trouvez que comme Saint-Laurent, je suis assez rôti du côté gauche, n'est-ce pas ? Allons, faites. » Elle s'accommoda sur mon épaule droite, comme elle avait fait sur mon épaule gauche, s'endormit de nouveau et ne se réveilla qu'à Bruxelles. « Descendez-vous ?» me dit-elle. « Bon, et vos vieilles noires, que diront-ils en nous voyant ensemble ?»« Ah, c'est vrai, je les avais oubliées. Où logez-vous d'habitude ?»« À l'hôtel de l'Europe, mais on y a si mauvaise opinion de moi que, pour vous, je m'aurais mieux aller ailleurs. »« Choisissez. Alors, à l'hôtel de Suède. Eh bien, comme vous serez arrivé avant moi, vu mes 10 ou 12 colis, « faites-moi préparer ma chambre. Soyez tranquille. »« Vous ne m'embrassez pas ?»« Ma foi, non, non, c'est à vous de m'embrasser, si l'envie vous en tient. »« Oh, vous êtes bien l'être le plus exigeant que je connaisse, » dit-elle. et elle m'embrassa en éclatant de rire. Une heure après, elle était à l'hôtel de Suède. Je la conduisais à sa chambre, je lui baisais respectueusement la main, et je sortais en murmurant « Comme ce serait charmant si l'on pouvait avoir une femme pour amie !» Il va sans dire que j'avais fait préparer ma chambre de l'autre côté du carré. Je pris un bain et me couchai. Lorsque je me réveillais, je m'informais de ma compagne de voyage. Elle était déjà sortie et avait fait charger ses 10 ou 12 colis qui devaient s'en aller par la petite vitesse tandis qu'elle ferait sa tournée artistique à la recherche de Madame Schröder. Comme toutes les artistes qui ont l'habitude des locomotions rapides, ma compagne de voyage avait cela d'admirable qu'elle n'était pas plus embarrassante qu'un homme, qu'elle faisait et ficelait ses malles, qu'elle bourrait et fermait ses sacs de voyage, et qu'elle était toujours prête 5 minutes avant l'heure. Ce qu'il ne faut jamais prendre la peine de demander à une femme du monde. Pendant que je m'informais d'elle, elle revint. « Ah, par ma foi, lui dis-je, je vous croyais envolé. » « Je l'étais, en effet. »« Oui, mais pour toujours. »« Je suis de nature des hirondelles. Je reviens au nid. »« Qu'avez-vous fait ?»« Oh, j'ai embarqué toutes mes malles. J'en ai pris des reçus, de sorte que je reste avec la robe que j'ai sur moi, une autre dans mon sac de nuit et 6 chemises. »« Un étudiant, vous le voyez, ne ferait pas mieux. » Et quand partez-vous? Quand vous voudrez. Vous voulez voir Bruxelles, cependant. Qu'y a-t-il à voir à Bruxelles? Oh, l'église Sainte-Gudule, la place de l'hôtel de ville et le passage Saint-Hubert. Et puis? Et puis l'allée verte. Et puis? Et puis c'est tout. Eh bien, menez-moi dans un cabaret quelconque, je vous y donne à déjeuner. Vous? Oui, mes colis me coûtent moins cher de porc que je le croyais. Je suis riche. Que mange-t-on ici? Des huîtres d'Ostende, du bœuf fumé, des écrevisses. Et que boit-on? Du faro et du lambic. Allons boire du faro et du lambic et manger des écrevisses, du bœuf et des huîtres d'Ostende. Allons. Nous partîmes. Je vous jure que si ma compagne avait eu un pantalon et une redingote au lieu d'avoir une robe et un burnous, j'aurais été dupe de mon illusion et me serais cru le mentor d'un beau jeune homme au lieu d'être le cavalier d'une charmante femme. Nous déjeunâmes, puis nous visitâmes l'église Sainte-Gudule, le passage Saint-Hubert, la place de l'hôtel de ville. Nous fîmes un tour à l'allée verte et nous revînmes à l'hôtel de Suède. « Alors nous avons vu tout ce qu'il y a à voir à Bruxelles ?» me demanda ma compagne de voyage. « Oui, tout, excepté le musée. »« Qu'est-il au musée ?»« Il y a 4 ou 5 Rubens magnifiques et 2 ou 3 Van Dyck merveilleux. »« Mais pourquoi ne me disiez-vous pas cela tout de suite ?»« Je l'avais oublié. »« Beau Cicérone, allons voir le musée. » Nous allâmes voir le musée. La grande artiste qui connaissait Shakespeare comme Schiller, Victor Hugo comme Shakespeare, Calderon comme Victor Hugo, connaissait Rubens et Van Dyck comme Calderon et parlait peinture comme elle parlait théâtre. Nous restâmes 2 bonnes heures au musée. « Eh bien, me dit-elle en sortant, qu'ai-je encore à voir dans la capitale de la Belgique ?»« Madame Pleyel, si vous voulez. » Madame Pleyel? Madame Pleyel, la grande artiste? Celle dont Liszt m'a tant parlé? Elle-même? Vous la connaissez? Parfaitement. Et vous pouvez me présenter à elle? Dans 1 demi-heure. Une voiture! Et mon enthousiaste hongroise fit signe à un cocher qui accourut et qui, m'ayant reconnu, ouvrit sa portière avec empressement. Un des étonnements de ma compagne de voyage était cette popularité qui fait que non seulement dans les rues de Paris, sur 10 personnes près desquelles je passe, 5 me saluent de la tête ou de la main,
mais qui, après m'avoir accompagné en province, passe avec moi la frontière et m'escorte à l'étranger. Or, nous étions arrivés à Bruxelles, et à Bruxelles, cocher compris, ce n'était plus 5, mais 8 personnes sur 10 qui me connaissaient. Nous montâmes en voiture. Madame Pleyel demeurait fort loin, au fond du faubourg de Schaerbeek, de sorte que ma belle compagne eut tout le temps de m'interroger sur la grande artiste que nous allions visiter et que j'eus tout le temps, moi, de répondre à ses interrogations. Il y avait quelque chose comme 25 ans que je connaissais Madame Pleyel. Un jour, on me l'annonça lorsqu'elle m'avait encore d'autre auréole que la célébrité commerciale de son mari. Je ne la connaissais pas personnellement. Je vis entrer chez moi une jeune femme maigre, brune, avec des dents blanches, des yeux noirs magnifiques et une incroyable mobilité de physionomie. À la première vue, je compris que j'avais affaire à une artiste. Et en effet, flottant dans l'indécision, sentant battre en elle un cœur enthousiaste, elle ignorait encore vers quel art elle était entraînée et venait me demander conseil sur ce qu'elle devait faire. À cette époque, elle croyait voir son avenir au théâtre. J'étais en train de faire Kean. Je l'ai à ma table, je pris mon manuscrit, je l'ouvris à la scène entre Kean et Anna Dombey et je la lui lus. La situation était identique. En outre, Madame Pleyel n'était pas libre, elle avait un mari. Il fallait, pour qu'elle entrât au théâtre, rompre avec des convenances sociales, dont l'arrachement est toujours saignant et douloureux. J'eus le bonheur de la convaincre, momentanément du moins, que tous les triomphes de la scène ne valent pas la tranquille monotonie du ménage. « Elle fila de la laine et demeura à la maison », écrivaient les anciens Romains sur le tombeau de leur matrone. Je n'avais plus entendu parler de Madame Pleyel pendant un an ou deux. Tout à coup, j'appris qu'un malheur lui était arrivé. J'ai oublié de quel piège infâme elle avait été victime. Elle était obligée de s'exiler. Elle ne pensa point à moi dans son malheur, si grand qu'elle ne pensa à rien qu'à quitter la France. Elle partit avec sa mère. Toutes deux étaient à Hambourg, près de mourir de faim, lorsqu'un jour, en passant devant un marchand d'instruments de musique, il prit de Madame Pleyel une véritable envie d'entrer dans ce magasin, comme si elle voulait acheter un piano, afin de rafraîchir son cœur avec un peu d'harmonie. Elle n'était point alors l'admirable artiste qu'elle est aujourd'hui. Cependant, le malheur avait avivé chez elle la flamme du génie. Elle s'assit devant l'instrument, laissa tomber ses doigts sur le clavier et en tira, dès les premiers accords, des cris déchirants. Le marchand, qui ne la connaissait point, n'avait pour elle que la courtoisie mercantile que l'on a pour une cliente ordinaire, s'approcha d'elle et écouta. Elle ne jouait aucun air connu, elle improvisait. Mais dans cette improvisation, il y avait tout ce qu'elle avait souffert depuis 3 mois. Déception d'amour, douleur, désillusion, larmes, exil. Il y avait jusqu'au terrible cri de ce vautour qui planait sur elle et que l'on appelle la faim. « Qui êtes-vous? Et que puis-je pour vous ?» lui demanda le marchand quand elle eut fini. Elle fondit en larmes et lui raconta tout. Alors, l'excellent homme lui fit comprendre quel sévère mais sublime instituteur est la douleur. Il lui montra la voie mystérieuse par laquelle la Providence la poussait à la fortune, à l'illustration, à la gloire peut-être. Elle doutait d'elle-même, il la rassura. Et il fit porter chez elle son meilleur piano et la poussa à donner un concert. Un concert! Donner un concert, elle qui la veille encore, ignorait son génie. Le marchand insista, se chargeant de tous les frais, répondant enfin de tout. Elle se décida, la pauvre Marie.
Elle s'appelait Marie comme Malibran, comme Dorval. J'ai été l'ami intime de ces trois illustres et malheureuses femmes. J'ai tort de dire malheureuse, c'est l'épithète d'heureuse, au contraire, qu'il faut accoler au nom de Marie Pleyel. Heureuse, car son concert réussit, car alors elle entrevit l'avenir de succès qui lui était réservé. Pendant 10 ans, Saint-Pétersbourg, Vienne, Dresde retentirent de ses succès. Elle revint dans la Belgique, sa patrie, et contre toutes les traditions reçues, justice lui fut rendue. On la nomma professeur au conservatoire. Ce fut alors qu'elle revint à Paris, où sa réputation l'avait précédée. Elle donna des concerts et fit fureur. Je la revis. Puis, à mon tour, après le 2 décembre, j'allais en Belgique et pour la 3e fois, je la retrouvais. Lorsque nous sonnâmes à sa porte, Madame Brunowski la connaissait aussi bien que moi. Sa femme de chambre jeta un cri de joie en me reconnaissant. « Oh, que Madame va être contente !» s'écria-t-elle. Et, sans penser à refermer la porte derrière nous, elle s'élança dans le salon en criant mon nom. « Eh bien, demandai-je à ma compagne de voyage, doutez-vous encore que nous soyons bien reçus ?» Elle n'avait pas eu le temps de répondre que Marie Pleyel venait au-devant de nous, majestueuse comme une reine, gracieuse comme une artiste. « Embrassez-vous d'abord, dis-je aux deux femmes, vous ferez connaissance après. » Ma compagne de voyage jeta ses deux bras au cou de Marie Pleyel, et un instant je restais admiré ces deux créatures, si différentes d'aspect, et si réellement belles, chacune d'une beauté opposée à celle de l'autre. Madame Bulidowski, mince, flexible, blonde et rose, pleine d'effusion comme les Allemands et les Hongroises. Madame Pleyel, grande, aux formes admirablement accusées, brune, calme, presque sévère. Un sculpteur qui aurait pu prendre ce groupe, reproduire ces deux natures si opposées, eût eu un splendide succès. L'accolade donnée, je les pris chacune sous un bras. J'entrai avec elles au salon, les fis asseoir l'une à ma droite, l'autre à ma gauche, et m'assis à côté d'elle. Puis j'expliquai notre visite à Madame Pleyel. « C'est-à-dire que vous avez envie de m'entendre ?» dit Madame Pleyel à la visiteuse. « J'en meurs !»« C'est bien facile, mon Dieu, vous êtes avec un homme qui a le privilège de me faire faire tout ce qu'il veut. » Je lui sautai au cou, je ne l'avais pas embrassé encore, moi. « Que voulez-vous que je lui joue à votre tragédienne ?» me demanda-t-elle tout bas. « Bon, quelque chose dans le genre de ce que vous avez joué chez votre marchand de piano de Hambourg. » Elle sourit de ce triste et charmant sourire qui rappelle les souffrances passées et jeta au vent un éblouissant prélude. « Ah, Marie, Marie, lui dis-je, vous êtes heureuse. » Mais ce n'est pas du bonheur que nous vous demandons. Et si mon cœur éclate comme celui d'Antonia, bon, je mettrai ma main dessus et l'empêcherai de se briser. Elle me regarda, haussa doucement les épaules. Fat, me dit-elle, et elle commença. Je n'essaierai pas de vous dire ce que la grande artiste nous joua. Jamais, sous aucune main, l'ivoire et le bois n'ont rendu de pareils accords. Sans interruption, pendant 1 heure, les plus poignantes sensations, les plus enivrantes douleurs se succédèrent. L'instrument lui-même semblait souffrir, se plaindre, gémir, se lamenter. Enfin, au bout 1 heure, elle se leva avec un cri. « Vous n'avez pas pitié de moi, me dit-elle. Ne voyez-vous pas que vous me tuez ?» Je regardais Madame Bulyovski, elle était pâle, frissonnante, presque évanouie. Auditeur et instrumentiste étaient dignes l'un de l'autre. Les deux femmes s'embrassèrent de nouveau. J'entraînais Madame Vulliovski, je craignais plus pour cette nature frêle et nerveuse que pour la vigoureuse et puissante nature de Marie Pleyel. « Eh bien ?» lui demandai-je une fois dans la rue. « Voulez-vous encore voir quelque chose à Bruxelles ?»«
Et que voulez-vous que je voie, après avoir vu et entendu cette admirable femme ?» me demanda-t-elle.
« Alors, que faisons-nous ?»«
Moi, je pars pour Spa, et vous ?»«
Oh, parbleu, moi, je vous suis !» Un quart d'heure après, nous étions au chemin de fer, et nous partions pour la ville des eaux et des jeux, que je n'avais pas eu la curiosité d'aller visiter pendant mes 3 ans de séjour en Belgique.